VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 18h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté aujourd'hui le monde musulman à l'unité contre le terrorisme. Il s'exprimait à l'ouverture de la 13e conférence annuelle du groupe. Jacques Aristide.
Pour le chef de l'État turc, les dirigeants musulmans doivent pouvoir surmonter les différences confessionnelles pour mieux lutter contre le péril djihadiste et apaiser une région minée par les guerres. « Ma religion n'est pas le sunnisme ou le chiisme, c'est l'islam », a déclaré Recep Tayyip Erdogan devant les représentants de 56 pays participant au sommet de l'OIC, dont le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani. Erdogan a tiré à boulet rouge sur le groupe État islamique et toutes les organisations terroristes qui servent la même cause maléfique, dit-il, avant d'annoncer la création prochaine d'un Interpol islamique basé à Istanbul pour coordonner le combat antiterroriste.
Afrique maintenant, au Nigeria, 2 ans déjà que les 276 adolescentes de Chibok ont été enlevées par les islamistes de Boko Haram. 57 des lycéennes ont réussi à s'échapper peu de temps après leur enlèvement, mais on est toujours sans nouvelles des 219 autres. Plusieurs manifestations ont eu lieu au Nigeria à l'occasion de ce triste anniversaire. Miley Segal.
À Lagos et à Abuja, des centaines de personnes ont réclamé la libération de ces jeunes filles. Marches et veillées de prières ont eu lieu toute la journée, rassemblant familles et sympathisants. Dans une vidéo datant du 25 décembre, envoyée hier par Boko Haram, une quinzaine de filles couvertes d'un hijab noir donnent leur nom et assurent avoir été enlevées à Chibok, ce qu'ont confirmé leurs proches. Peu après leur rapt en 2014, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, avait affirmé vouloir faire de ces lycéennes des esclaves sexuelles. Une campagne internationale s'était alors lancée sur les réseaux sociaux, intitulée « Bring back our girls » en faveur de leur retour. En juillet dernier, le gouvernement du Nigeria a reçu une demande de rançon d'1 million d'euros pour la libération de 10 adolescentes. Et le chef de Boko Haram déclare en septembre envisager relâcher les captives en échange de la libération de combattants islamistes détenus au Nigeria. Un mois après, le 28 octobre, l'armée libère dans l'état de Borno plus de 300 femmes et enfants otages de Boko Haram dans le cadre d'une vaste offensive. Il est désormais clair que l'organisation islamiste s'en sert comme bombe humaine, comme kamikaze.
Au Burkina Faso, la justice a levé le gel des avoirs de 14 personnes et 4 partis politiques soupçonnés d'implication dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Le juge d'instruction a décidé de ne pas renouveler l'ordonnance sur le gel des comptes. Au micro d'Idriss Fall, les explications de maître Mathieu Sommet, l'un des avocats des putschistes présumés.
Le juge, en octobre, avait rendu une ordonnance, là, les avoirs de 14 physiques et 4 personnes morales, c'est-à-dire politiques. Et cette ordonnance avait une durée de vie de mois. C'est un don qu'il n'a pas renouvelé pour les raisons personnelles à lui. Et ça entraînait automatiquement le dégel des avoirs de tout le monde.
Qu'est-ce que ça signifie alors?
Ça signifie qu'ils reprennent la liberté d'usage sans limitation. Parce qu'au moment du gel, ils ne pouvaient plus élever que 500 maximum. Et la conséquence est que les comptes ne seront plus gelés puisque l'ordonnance avait été notifiée aux différentes institutions financières et bancaires. Alors ils ont renotifié une autre décision disant que l'ordonnance de gel était renouvelée et que par conséquent, les personnes fermées reprenaient la disposition des avoirs qu'ils avaient.
Mais sur le fond, où est-ce qu'on en est avec les procès des présumés putschistes?
Bon, l'interrogatoire au fond est en cours, parce qu'ils ont presque fini. Je pense qu'ils ont presque fini. Ce qui reste probablement, ça va être les différentes confrontations. Et puis, on va aller vers le règlement de l'affaire. Une ordonnance de renvoi pour jugement sera rendue.
Maintenant, comme preuve, est-ce qu'on a plus que des coups de téléphone présumés entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro?
Bon, la question des écoutes téléphoniques sera lors du procès le 11 mai à la cour de la CEDEAO, puisque les avocats de Djibril Bassolé ont saisi cette juridiction pour qu'ils puissent statuer sur la légalité de ces écoutes. Et donc, il y a un procès qui est prévu. Il devrait passer le 11 de ce. Il y a eu un report de dernière minute pour la tête et c'est reporté au 11 mai.
Maître Mathieu Sommet, avocat à Ouagadougou au Burkina Faso. Au Mali, le gouvernement a prorogé l'état d'urgence dans le pays jusqu'au 15 juillet. Il avait été réinstauré le 4 avril pour 10 jours et devait arriver à expiration ce soir à minuit. Et puis en Côte d'Ivoire, manifestation d'étudiants aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mouvement qui a paralysé les cours dans l'établissement. C'est au lendemain de l'arrestation d'un leader syndical.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Recrudescence de la violence au Burundi. Au moins 3 personnes sont mortes mercredi soir à Bujumbura, notamment le président du conseil communal de Mutimbuzi, à l'ouest de la capitale, abattu devant son domicile. Les assassinats ciblés continuent de faire des victimes ces derniers jours, même si la fréquence des meurtres a diminué. En mars, plusieurs élus locaux ont été assassinés. Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées au cours du premier trimestre de 2016, selon le ministre de la Sécurité. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Phocas Bakaza rentrait à son domicile mercredi soir lorsque deux personnes armées de pistolets, selon le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, ont tiré 4 balles dans le ventre du défunt. Cet ancien président du conseil communal de Mutimbuzi à l'ouest de Bujumbura, abattu devant sa maison à 5 km à l'ouest de la capitale, est mort sur le champ. Les deux assassins se sont volatilisés dans la nature, mais Moïse Nkurunziza indique que deux personnes ont déjà été arrêtées pour interrogatoire. Une autre personne, Jean-Baptiste Sengiyumva, qui habite le quartier de Moussaga au sud de Bujumbura, a également été tué mercredi soir par 4 personnes armées. Il est mort lui aussi assassiné dans sa propre maison ces derniers jours. S'il est vrai que la violence a baissé d'intensité, l'on assiste à des assassinats ciblés des administratifs locaux à Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. Le mois de mars dernier, au moins 3 élus collinaires avaient été assassinés au sud du pays par des gens armés. Signalons également que le corps d'une 3e personne a été retrouvé jeudi matin devant l'hôpital militaire de Bujumbura. Le ministre de la sécurité publique, Alain-Guillaume Bougnoni, avait déclaré mardi dans une conférence de presse que 46 personnes avaient été tuées au cours du premier trimestre de l'année 2016. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, le prochain retour de l'ex-leader rebelle Riek Machar à Djouba, la capitale, lundi, suscite une lueur d'espoir de voir finalement appliquer l'accord de paix signé en août 2015. Au Congo-Brazzaville, un collectif d'ONG baptisé Tournons la page a exigé hier la fin des violences dans le pays et l'instauration d'un dialogue pour sortir de la crise post-électorale née selon cette coalition de la victoire contestée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Plus de précisions avec John Lindon.
Dans un communiqué, la coalition Tournons la page exige l'arrêt immédiat des opérations militaires en cours dans le département du Pôle, de même que le retour des soldats déployés sur le territoire dans leurs casernes et bien sûr l'ouverture d'un dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques pour solder le contentieux sans faire appel aux armes. Le gouvernement a accusé le pasteur Ntoumi, ancien rebelle originaire du Pôle, d'avoir commandité une attaque terroriste contre plusieurs bâtiments publics. Refutant cette version, certains opposants accusent le pouvoir d'avoir commis un montage pour étouffer toute velléité de contestation des résultats officiels.
Au Tchad, 4 dirigeants de la société civile arrêtés avant l'élection présidentielle de dimanche dernier pour avoir appelé à manifester contre la candidature du président Idriss Déby Itno ont été condamnés ce jeudi à N'Djamena à 4 mois de prison avec sursis. Mahamat Nour, Ahmed Ibedou, Younous Mahadjir, Nadjo Kaina Palmer et Céline Normadjir ont été libérés dans la journée. Et puis les Tchadiens continuent d'attendre les résultats provisoires de la présidentielle du 10 avril qui mettait aux prises le président Déby Itno et 12 adversaires. Le 40e rapport annuel du département d'État américain sur les droits humains dénonce une crise mondiale de la gouvernance qui se traduit par une multiplication des attaques contre les libertés fondamentales et les valeurs démocratiques. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le rapport accuse des régimes autoritaires à travers le monde de réprimer leur peuple avec une vigueur et une méchanceté croissante. Le document du département d'État épingle en particulier des pays comme la Russie et la Chine, tout comme la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan, mais il n'épargne pas les alliés des États-Unis comme la Turquie ou l'Égypte.
Et pour terminer, campagne des premières présidentielles ici aux États-Unis, les candidats démocrates Hillary Clinton et Bernie Sanders s'affronteront aujourd'hui à Brooklyn, dans la ville de New York, dans un débat télévisé très attendu à l'approche de la primaire cruciale dans l'État de New York. Mardi prochain. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.